بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. شفاء الإسلام nous remercions Allah عز وجل qui nous a donné la possibilité de démarrer ce mois béni de Ramadan et que notre Seigneur dans sa clémence a accordé à cette Ummah le même cadeau qu'il avait accordé au peuple avant, c'est le Saum de Ramadan, mais que cette Ummah, la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a eu la possibilité de garder, de préserver, de protéger ce Saum Ramadan dans son intégralité, de la façon de jeûner, de la façon d'accomplir le suhur, le iftar, les prières de la nuit, exactement comme cela avait été révélé à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le verset où Allah azza wa jal révèle l'obligation du jeûne, il est stipulé que « Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum al-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum » que le jeûne a été prescrit donc à cette communauté comme il avait été prescrit à ceux avant nous. C'est qui les gens qui étaient venus avant nous? Des autres religions, les autres aqwam qui sont venus avant notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. En commentant les mufassirin rahimahumullah, ils expliquent que ces populations qui sont venues avant nous, eux aussi avaient reçu ce cadeau, ce présent de la part d'Allah azza wa jal. Mais d'une manière générale, la pratique de la religion, tout comme la protection des livres célestes révélés aux anciennes communautés, était confiée aux dignitaires religieux de ces communautés. Il n'y avait pas une protection directe de la part d'Allah Azza wa Jal, comme c'est le cas pour cette Ummah avec son Coran, à propos duquel Allah Azza wa Jal dit « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Allah Azza wa Jal protège le Coran de la Ummah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Allah n'avait pas pris l'engagement de protéger la Torah, le Zabur, le Injil, les livres célestes qui avaient été révélés aux communautés avant nous. Cela a été confié aux croyants de cette époque, c'était à eux de protéger leurs écrits et de veiller à la bonne pratique, à la bonne application des textes. Et on sait que dans l'histoire des religions, il y a eu des tahrifs, des tabdils, des falsifications, ce qui fait que, on pourrait dire, la plupart des points, la plupart des choses qui ont été légiférées à l'époque de leurs prophètes respectifs, ben malheureusement, ces communautés les ont perdues à force de changer les textes. Et justement, Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il explique dans un livre très connu, il dit que également le Ramadan qui avait été confié au qawm, au peuple avant, il était quasiment identique au nôtre, et malheureusement pour eux, à force de changer, de modifier les jours, il y a des fois où ils voulaient diminuer le nombre de jours, il y a des fois où ils voulaient changer la période en fonction de l'été, en fonction de l'hiver, jusqu'à un moment donné, Allah Azza wa Jal a enlevé même le qima, l'importance de cette action du cœur de ces gens, et aujourd'hui il n'y a plus de traces de ce ibadah, tout comme il n'y a plus de traces de beaucoup d'actions, de beaucoup de croyances, de tawhid également, qu'Allah avait révélé à ces communautés. Donc, étant Ummati, faisant partie de la Ummah du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous accorde la possibilité, depuis que le Saum a été révélé en l'an 2 de l'Hijra, c'est-à-dire à Al-Madina Al-Munawwara, nous continuons à perpétuer cette action, et c'est là une action qui apporte énormément, énormément de bien aux croyants sur le plan spirituel, iman, sur le plan psychologique, également sur le plan physique. Si Allah Rabbul Izzah a accordé cette ibadah, le somme, au peuple même avant nous, c'est que notre Seigneur qui a créé l'homme, qui a créé la machine humaine et qui sait parfaitement comment est-ce que l'homme fonctionne et de quoi l'homme a besoin, c'est qu'Allah Azza wa Jal sait pertinemment que ce somme, cette action est nécessaire et primordiale pour l'insan, pour l'être humain. Et donc lorsque nous jeûnons, si nous continuons le fil du verset « Kama kutiba ala alladhina min qablikum » nous voyons à la fin du verset pourquoi est-ce que le saum a été prescrit. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal attend de l'être humain à travers le jeûne? Qu'est-ce que ce ibadah est censé nous apporter? La réponse allait dans les deux derniers mots « La'allakum tattaqun » afin qu'on atteigne, qu'on puisse atteindre la taqwa, la piété. Et c'est là l'objectif recherché à travers le saum. Notre prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé une fois aux sahaba en ces termes, hadith Abu Huraira radiallahu anhu, que le prophète a dit « Qad ja'akum shahru Ramadan » « Oh mes compagnons, le mois de Ramadan est arrivé. » Quand le prophète alayhi salatu wassalam prononce ces paroles, il va faire un rappel aux sahaba. Et nous, nous essayons de perpétuer cette sunna, de rappeler l'importance de ce mois. Parce que quel que soit notre degré de pratique, quelle que soit notre implication de la religion, le mu'mine a besoin de rappel. Et la personne qui parle a encore plus besoin de dhikra, de rappel, parce que cela est profitable aux croyants. Donc le prophète alayhi salatu wassalam rappelle aux sahaba qui sont les meilleurs des adorateurs d'Allah, on est d'accord. Ce sont les plus grands alims de l'histoire des oumams. Ils n'ont pas, on va dire qu'ils n'ont pas besoin de rappel, mais le prophète le fait parce que ce rappel-là, il est muhim, il est important, surtout en début de mois. Le prophète sallam avait rappelé aux sahaba que le mois béni est arrivé. Et notre prophète va qualifier ce mois comme étant Shahrun Mubarak, un mois qui est béni. Et dans Mubarak, on retrouve le terme Al-Baraka, c'est-à-dire qu'il y a la bénédiction d'Allah Azza wa Jal depuis le début du mois béni jusqu'aux derniers instants de ce mois. Il n'y a pas un instant, il n'y a pas une minute, il n'y a pas une seconde sans qu'il y ait la baraka, la bénédiction de la part d'Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est spécifique à ce mois béni. Un mois sur 12 où il y a autant de bénédictions qui descendent sur l'ensemble de la Ummah. Donc c'est une bénédiction pour l'ensemble des personnes qui, dans leur cœur, ils ont la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et les muhaddithin, les savants, ils expliquent que ce qui caractérise cette baraka et cette rahma, cette clémence qui descend durant ce mois, c'est qu'elle va toucher l'ensemble des ahlul iman. L'ensemble de personnes, comme on l'a dit, qui ont la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dans leur cœur. C'est pas un mois où uniquement les gens, entre guillemets, les gens pieux, les gens religieux qui vont profiter, non. L'ensemble des personnes va profiter de ce mois. Et nous voyons que ce qui est vraiment spécifique au mois de Ramadan, c'est que nous retrouvons à travers ce mois une action qui réunit l'ensemble de la Ummah. Quelles que soient les divergences d'opinion, quel que soit le niveau et le degré de pratique ou d'implication de la religion, que la personne se considère comme religieux, engagé, ou alors que la personne se considère comme modérée, ou c'est pas les termes que les gens utilisent de nos jours, ou qu'une personne considère que je suis musulman, c'est dans la foi, c'est dans le cœur, même la personne qui a ce genre de discours, arrivé le mois de Ramadan, il y a une mobilisation générale, les gens jeûnent. Malheureusement, on ne retrouve pas cette mobilisation, cette implication par rapport au premier pilier, à la salat, qui est plus importante et qui se répète. Il y a plus de gens qui jeûnent que de gens qui prient durant toute l'année. Et ça, c'est un constat. Les masajid, walhamdulillah, sont remplis durant le mois béni. On va dire qu'en même temps, c'est satisfaisant parce que ça montre que le iman est présent dans la Ummah. Malgré ce qui se passe, malgré l'actualité, malgré ce qui est véhiculé comme message, les masajid sont remplis. Quels que soient les quartiers de Saint-Denis ou des autres villes, alhamdulillah, les gens répondent présents durant ce mois. Ça remplit les cœurs de joie. Mais en même temps, ça nous fait réfléchir que la Ummah est présente, mais elle n'est pas présente tout le temps. Elle est où cette Ummah en dehors du mois béni? Il y a que les gens ont un penchant pour le Ramadan et après le mois de Ramadan, là il y a un travail à faire où les gens décrochent. Ils pensent que le devoir est accompli, le devoir annuel est accompli et ça c'est un autre thème qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder Inch'Allah. Mais le constat positif, c'est que l'ensemble de la Ummah répond présent. On ne trouvera pas une personne qui va dire que moi le Ramadan ça ne m'intéresse pas, je ne jeûne pas. Ça n'existe pas. On va dire peut-être un cas sur mille, mais en général, la Umma répond présent et jeûne durant ce mois. Et donc, chaque personne qui va répondre présent et qui va jeûner, va obtenir la clémence d'Allah Azza wa Jal. Va profiter des ni'ma et des bénédictions qui descendent durant ce mois. Donc de cette façon, c'est vraiment un mois béni pour l'ensemble de la Umma de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam précise ensuite « Kataballahu alaykum siyamahu » « Ô musulmans, sachez qu'Allah vous y a prescrit le jeûne. » Là aussi, c'est un rappel. Ce rappel, le prophète le fait après que les versets aient déjà décrété que le jeûne est obligatoire. Et pour rappeler aux gens l'importance du jeûne. Et maintenant, si on voit en commentaire ce que les savants disent à propos du saum, c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est « Al-imsak wa anil akli wa sharab wa shahawat mukhlisan lillahi azza wa jal » Jeûner, c'est s'abstenir de manger, de boire et d'avoir des relations intimes pendant une période limitée, du matin jusqu'au soir, jusqu'à la rupture du jeûne. Mukhlisan lillahi azza wa jal, avec sincérité, on le fait uniquement pour Allah azza wa jal. C'est-à-dire que lorsque notre Rabb nous interdit de manger, on ne mange pas. par obéissance à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et quand Allah nous donne maintenant l'autorisation de consommer, c'est-à-dire l'heure de iftar, là on a la possibilité de manger, on le fait, et cela, ça montre le istislamu lillah, la soumission à Allah Azza wa Jal. Et cette soumission, elle va être encore plus forte, encore plus présente, parce qu'elle va lutter contre des besoins primaires de l'homme. Les besoins primaires de l'homme qui restent des besoins presque animaux, manger, boire, se nourrir, ça reste quelque chose d'instinctif. Et de cette façon, le mu'min va contrôler entièrement son nefs, va contrôler ses shahawat, ses pulsions, et il va faire en sorte que l'ordre d'Allah Azza wa Jal va passer au-dessus de ses besoins primaires. C'est ça, on fait l'idée du sawm. Une soumission, une lutte entre les besoins corporels et le iman qui empêche les besoins corporels de se manifester ou de se concrétiser. Lorsqu'on a faim, lorsqu'on a soif, on ne vous apprend rien. Quand on a des besoins, ben, on se dit que nous, on est en état de jeûne, je vais manger, mais ce soir, pas maintenant. Ben, pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas en cachette, par exemple? Même les enfants, ils ne mangent pas, ils ne boivent pas en cachette, vous savez. Quand vous testez les enfants, ils disent, ben, on la boit de l'eau à l'école. Non, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas, parce que pour eux, c'est vraiment, sur le plan moral, c'est essentiel. Pour eux, respecter la journée du jeûne, c'est symbolique, c'est très fort et c'est presque un challenge aussi. D'accord ? Donc le mu'min, là on parle d'enfant, mais là il y a d'autres objectifs. Mais même pour un adulte, il ne passerait jamais dans la tête d'un musulman. C'est-à-dire que bon, là je vais m'isoler dans un endroit, j'amène mon sandwich, je vais manger dans les toilettes et personne ne me voit. Qui ferait un truc comme ça ? Personne. Mais on pourrait dire 0% de la Ummah le ferait. Pourquoi ? Parce que le mu'min, il sait par excellence qu'il n'y a pas un endroit où Allah ne nous voit pas. Un. Et deuxièmement, c'est un engagement vers Allah. Quand la personne ne mange pas, ce n'est pas la loi qui l'empêche de manger. Ce n'est pas qu'il n'y a rien à manger non plus. Ce n'est pas qu'il est malade, il ne peut pas se nourrir. C'est qu'il sait qu'il a un engagement vers Allah. Vous voyez, ça s'appelle un retour des bases de foi. Il y a un retour de ce qui constitue la base du iman du musulman, que la personne même qui ne pratique pas en dehors du mois de Ramadan, qui ne se considère pas comme étant pratiquant, mais durant ce mois, le simple fait de respecter le carême, de jeûner, et donc de ne pas aller à l'encontre des principes du jeûne, il y a une application des principes même du istislam, de la soumission envers Allah Azza wa Jal. Pourquoi donc la personne ne mange pas, ne boit pas? Pour deux raisons. Un, il s'est engagé avec Allah. Quand je fais Allahumma le niya, je dis Allahumma niya soumou radan lak farfil lima qaddamtu wa ma qart. Je fais le niya de jeûner jusqu'à la rupture, jusqu'au iftar, jusqu'au futur. Donc il sait qu'il y a un engagement spirituel. Il sait qu'il a des comptes à rendre à qui? À Allah. Ça c'est déjà une flamme de iman qui revient à ça. Ça c'est déjà une des bases de iman. Et cette base de foi, l'objectif du somme, c'est que le croyant le vit 30 ou 29 ou 30 jours consécutifs. Et de cette façon, cette habitude, parce que l'homme a besoin de temps pour prendre de bonnes habitudes. C'est pour ça que le jeûne est de 30 jours aussi. Il n'est pas de 3 jours ou 5 jours. Autrement, on n'entrerait pas vraiment dans ce rythme. Regardez au bout de 3 jours, 4 jours. Est-ce que quelqu'un a encore beaucoup de mal à jeûner? Non. Le premier jour, c'était difficile. Pour certains, le deuxième jour, on a un peu mal à la tête, on est perturbé et tout. Les heures de repas, on ne les retrouve plus. Mais au bout de 3 ou 4 jours, ça devient presque naturel. On n'a même plus de besoin, et ainsi de suite. Dire que, mais à chaque fois qu'on a faim, ben on se dit que ben non, l'engagement c'est juste là, Maghrib. Dire que ça, c'est un engagement vers Allah. Et c'est cette philosophie, j'aime pas le terme philosophie encore une fois, cette sagesse, cet objectif du jeûne, le maqsad, c'est qu'en dehors de ce mois, le croyant il le garde dans son cœur. Que j'ai un engagement vers Allah. Et quel est notre engagement vers Allah ? Au-delà du jeûne. Et là aussi, les savants disent, cet engagement de ne pas manger, de ne pas boire, de ne pas avoir de relations intimes avec notre femme durant la période du jeûne. Est-ce que ces actions qui risquent d'annuler le jeûne, est-ce que l'essence même de ces actions, c'est du haram? Non. Manger en dehors du Ramadan, c'est pas haram. Boire, haram. Avoir des rapports quand c'est mon épouse avec un lien de mariage, bien sûr, c'est pas haram. Mais des actions qui sont, qu'on appelle en istilah, mubah, qui sont autorisées, des actions neutres, qui sont permis, ils deviennent haram du coup. Alors que l'essence de l'interdit est temporaire. C'est pendant ce laps de temps qu'il est haram. Une fois la période passée, khalas, mange, bois jusqu'à le lendemain si tu veux, il n'y a pas de mal. Il n'y a plus de caractère haram. Maintenant, le mu'min intelligent qui comprend l'objectif du somme, il voit que, subhanallah, j'ai été capable de respecter un engagement personnel avec mon Seigneur pendant une journée concernant des choses qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes.
que dire maintenant de l'engagement de ma vie envers Allah Azza wa Jal, qui est l'adoration d'Allah l'unique, l'accomplissement des piliers, des bonnes actions, et on commencera par les basiques, les obligations, les prières, et l'éloignement de ce qui est interdit. Et lorsqu'une action est haram toute l'année, c'est que l'essence même de cette action, elle est mauvaise. L'adultère, c'est mauvais. Le fait d'écouter la musique, c'est mauvais. Le fait de boire de l'alcool, c'est mauvais. Le fait de consommer des stupéfiants, c'est mauvais. Le fait de mentir, de faire la médisance, et ainsi de suite. Bref, on va passer tous les péchés. Mais ce qui est interdit toute l'année, ce sont des choses qui sont mauvaises en elles-mêmes et qui sont détestées par Allah sans limite de temps. Donc, la logique veut que quand j'étais capable de me contrôler sur quelque chose qui était indispensable pour ma survie et qui à la base n'est pas mauvais, ben, je dois garder cet état d'esprit et respecter maintenant mes engagements avec Allah, même en dehors du mois béni. Donc, chaque croyant a la possibilité, une fois par an, de se reconnecter avec les bases du mécanisme de la foi. C'est le mécanisme de la soumission envers Allah Azza wa Jal. Et deuxième point, ce que les savants y retiennent, qu'est-ce qui empêche une personne de, comment dire, encore une fois, de manger en cachette ou autre chose, c'est que la personne sait que quel que soit l'endroit où il est, Allah le voit. Même si on n'a pas une grande connaissance sur les attributs d'Allah, on ne connaît pas, imaginez qu'on est vraiment un musulman de base, on n'a aucune connaissance religieuse, on ne connaît pas la puissance d'Allah, qu'est-ce qu'Allah voit, comment Allah sait ce qu'il y a dans les cœurs. Mais le musulman lambda, on pourrait dire, il sait qu'Allah le voit. Ça, c'est clair et net, ça. C'est que même si j'éteins la lumière, je me cache, Allah me voit, donc je n'ai pas fait une bêtise comme ça. D'accord ? Mais ça, c'est les premiers pas vers la taqwa. Ce sont là les premiers pas vers la piété. Le mot taqwa qu'on entend très souvent, qu'on peut traduire par piété, qui aboutit vers le ihsan, vers le summum en termes de relation avec Allah, qui est une relation presque directe avec Allah, quand on atteint un degré de foi et une implication, une concentration dans les pratiques. C'est qu'il est demandé aux croyants de vivre sa vie de ce dunya avec conviction qu'Allah le voit, qu'Allah l'entend, qu'Allah sait ce qu'il y a de son cœur, et donc d'analyser chaque fait, chaque geste, chaque parole prononcée, et même de faire un travail sur son cœur pour ne pas laisser la place aux mauvaises pensées, à tout ce qui est négatif dans le cœur, à la jalousie, à l'ostentation, que l'homme reste pur, que ce soit ses pensées, que ce soit ses actes. Pourquoi il se doit de rester pur? Parce qu'il sait que « Inna Allah muttali'un alayh » qu'Allah Azza wa Jalla l'observe et sait ce qu'il y a dans son cœur. Ça, les savants disent, ça c'est le béaba de la piété, de la taqwa. Et ça commence par la prise de conscience qu'Allah nous voit. Donc, consciemment ou inconsciemment, ce croyant, lorsqu'il s'abstient de manger, il sait qu'Allah le voit en toutes circonstances. C'est-à-dire que c'est une chance qui est donnée à tout musulman de revoir les bases de la taqwa et les bases de sa relation, de son engagement avec Allah Azza wa Jalla, avec pour espoir qu'il va le garder, il va installer ses habitudes dans sa vie, et que, inshallah, par le biais ensuite des actions, des autres actions en dehors du jeûne, mais des autres amal salihah qu'on accomplit durant ce mois, ça va booster, ça va augmenter son iman, ça va le rapprocher d'Allah Azza wa Jal, et il aura la possibilité de cette façon aussi de s'éloigner de ce qui est interdit. Et très souvent, là aussi, c'est une des rahmas, c'est une des clémences de ce mois béni, que même le pécheur, on pourrait dire endurci ou pas endurci, le fasiq ou le muznib, celui qui fait des péchés occasionnellement, ou celui qui est addict à certains péchés, on se rend compte que quasiment, presque la Ummah en entier, alhamdulillah, durant le mois béni, ils prennent de bonnes résolutions concernant leurs péchés. En général, les gens s'arrêtent. Ceux qui écoutaient la musique, ils savent que durant ce mois, on s'arrête. Ceux qui, wallah musta'an, allaient plus loin, allaient en boîte de nuit, ou consommer de l'alcool, ou allaient faire la fête les week-ends, ils n'y vont pas. Hier, c'était samedi. Est-ce que vous pensez qu'il y a des musulmans qui sont partis à la villa, à Saint-Gilles? On ne va donner personne. C'est ghayr ma'qoul. C'est même pas concevable. Parce qu'on sait que c'est un mois béni. On ne peut pas faire des bêtises, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ça, c'est un des rahmas qu'il y a durant ce mois, que ce mois a pris une telle place dans le cœur du mu'min qu'il respecte le mois. Et il a compris également que respecter le mois, ce n'est pas uniquement respecter les engagements, le fait de ne pas manger de boire. C'est que respecter ce mois, c'est ne pas faire ce qui est mauvais. C'est ne pas faire ce qui va provoquer la colère d'Allah. Et du coup, vous voyez, ça fait trois points là. Il va s'éloigner des interdits. Des interdits dont il n'arrive pas à s'éloigner durant toute l'année. Et avec ça, il va, d'une certaine façon, intégrer, réaliser que tu comptes faire ce que j'ai arrêté de faire là durant ce mois, c'était des choses qui ne sont pas bonnes, ça, c'est mauvais et qui provoquent la colère d'Allah. Alors maintenant on a espoir que cette personne y continue ce cheminement vers Allah et qu'avec les doigts qu'il va faire et peut-être les doigts que d'autres personnes vont faire pour lui, ben peut-être que la personne va finir par intégrer ces principes-là, réaliser que réellement aller en boîte de nuit, ben c'était vraiment pas bien ce que j'ai fait. Et là, j'ai compris qu'Allah n'aime pas ça. Donc, durant ce mois, je respecte. Mais ne dois-je pas respecter mon Seigneur toute l'année? Ne dois-je pas respecter cet engagement avec Allah toute l'année? Donc, les ulama disent que quand on parle d'un mois béni, d'un mois où il y a des rahmas, des bénédictions, parmi ces bénédictions, parmi ces vertus du mois béni, c'est que l'ensemble de la Oumma va observer un retour vers Allah Azza wa Jal. Après, il y a la situation des pieux, des gens qui durant toute l'année, mashallah, ils sont dans le sirat al-mustaqim, de l'accomplissement des bonnes œuvres et l'éloignement du haram. Eux, ils vont passer encore un cap. Ils vont passer encore un cap. Je prends l'exemple. Là, on avait pris l'exemple du musulman basique qui ne vient pas à la mosquée et qui fait ce qu'il a envie de faire toute l'année et durant le mois, il vient. Il fait de bonnes œuvres. Il jeûne, il pense à Allah, il sait qu'Allah l'observe, et il respecte son engagement avec Allah et il ne va pas faire les bêtises qu'il fait toute l'année. C'est ce qu'on appelle un retour de iman. Le changement, ça commence comme ça déjà. Le changement spirituel, le retour vers Allah, ça commence par ces bases-là. Maintenant, le cas du croyant qui, mashallah, le mu'min qui est déjà bien pratiquant de sa religion, qui vient à la masjid, qui lit le Coran tout le temps, qui fait ses prières, qui, alhamdulillah, mais cette personne, assurément, augmente son quota de bonnes actions durant le mois de Ramadan. Oui ou non? En général, le croyant qui est déjà pratiquant, il se dit que durant ce mois, je vais faire encore plus d'efforts. Et ça, c'est la réaction qui est demandée à chaque mu'min. Pour celui qui est loin, ben, qu'il revient un peu à la norme. Et celui qui est déjà marchant dans le droit chemin, qu'il augmente sa relation avec Allah Azza wa Jal. Par le biais de quelle action? Les savants énumèrent les principales actions du mois de Ramadan, on les a comptées à peu près 9 ou 10, il peut y en avoir plus. Hein. Donc le mu'min, il essaie de travailler différents dossiers. Le saum, bien sûr, par excellence, le fait de jeûner, et travaille à la qualité du jeûne. Parmi les actions du mois, la prière de Salatul Tarawih. La Salatul Tarawih, qu'on essaie de travailler au mieux. Et à travers cette Salatul Tarawih, on montre à notre Seigneur notre bonne volonté. On montre à Allah Azza wa Jal notre esprit de sacrifice. Après une journée passée dans le jeûne, souvent au travail, autre chose, on est fatigué, on est prêt à faire 1h30, 2h sur un tapis de prière debout, en génuflexion, en sajda, lillahi azza wa jal. Et ça va être là une grande preuve d'amour pour Allah azza wa jal. Mais après, si on ouvre des parenthèses, on ne pourra pas passer en revue les actions. Mais les savants disent que donner un sens concret au salat al-tarawih auquel vous assistez, ne faites pas comme ces personnes qui viennent et qui font la prière de Tarawih comme une routine annuelle ou parfois même comme une corvée annuelle. Ils font parce qu'il faut le faire. Non, il faut vraiment le vivre, il faut vraiment le ressentir, il faut le faire avec amour et il faut le faire avec l'esprit de Mujahada, l'esprit de sacrifice. Il faut le faire avec Ikhlas à chaque fois qu'on ressent un moment de fatigue parce qu'on reste des êtres humains. Au bout de 2 rak'at, 4 rak'at, 6 rak'at, à un moment donné, hein, les articulations, ils font un peu mal, on a mal au dos, on a mal à la tête, on aimerait bien rentrer, on attend quand ça finit, mais on se ressaisit. On essaie de rester concentré, on essaie déjà de rester à la masjid, de compléter, et on se dit à chaque fois que on remet le ikhlas, la sincérité, au centre de cette action. Et on remet la patience, le sabr ala ta'a, la patience dans les bonnes œuvres, au centre de cette action. On se dit, je le fais pour Allah. Et j'endure avec patience, c'est une bonne action pour Allah, même si j'ai mal partout, même si je suis fatigué, mais je le fais parce que c'est un devoir religieux et je le fais pour mon Seigneur. Ça, ikhwan fillah, ça nous apporte énormément de hasanat. Lorsqu'Allah voit un croyant, un serviteur s'efforcer à faire des efforts pour lui, uniquement pour lui, c'est une action qu'Allah Rabbul Izzah aime. Et donc, donner le sens au tarawih, c'est de mettre la sincérité à la base de Tarawih. La patience, l'endurance dans les bonnes œuvres pour Allah, au centre de la salat Tarawih. De cette façon, on va obtenir énormément de hasanat, mais sur le plan spirituel également, on va créer une relation avec Allah. Parce que le Ramadan, c'est ibara an tarbiya wa mujahada. C'est une éducation et ce sont là des sacrifices. plutôt sacrifice qui mène vers l'éducation de l'âme. Quand la personne a envie de partir, au bout de quelques rak'at, elle est fatiguée, et que la personne dit que non, je le fais pour Allah, on continue, c'est une éducation de l'âme encore une fois. Il a fait la tarbiya, l'éducation de son nafs, la matinée, par rapport aux besoins. Maintenant, il va faire l'éducation de son nafs dans les bonnes œuvres qui ne sont pas obligatoires. Mais il va le faire pour Allah. De cette façon, il va se rapprocher d'Allah. Au-delà des hasanats, des récompenses qu'il y a pour chaque unité de prière que je vais faire, en plus de ça, la personne va créer un lien avec son Seigneur. Ce lien sera basé sur la persévérance, l'endurance, dans l'accomplissement des bonnes actions. Donc on a énormément à gagner. Et puis, si on veut garder un peu une petite intervention sur la prière de Tarawih, les savants disent, comment donner encore plus d'ampleur à notre salat de Tarawih? Ce serait, et ça c'est vraiment le summum, ça c'était la façon que les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, priaient la nuit. Et les pieux prédécesseurs, ils avaient cette habitude de faire en sorte que dans chaque salat, dans chaque raka'at, dans chaque unité de prière, lorsque l'imam va lire, ou qu'eux-mêmes ils lisent, ils sont imams, faire en sorte qu'ils apprécient la lecture du Qur'an, qu'ils arrivent à faire le tadabbur, à méditer sur le sens des versets. Et ça, ça nous apportera la concentration. Ça, c'est un point qui revient très souvent. Il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Comment rester concentré dans la salat al-Tarawih? Tant que c'est des versets qu'on connaît par cœur, on suit. Mais à un moment donné, on décroche. Ou si l'imam ne lit pas comme Soudès, Shurem, ou d'une certaine façon, à un moment donné, on n'écoute plus. Mais ça, c'est une fausse impression, ça. Il y a des gens qui avouent que même quand ils sont des haram, imam haram en Makkah, Madina, ils sont concentrés, mais à un moment donné, ils décrochent, ils pensent à autre chose. Après, il faut se reconcentrer. Donc, ce n'est pas la qualité du qari, c'est la qualité du iman. Et comment est-ce que le iman peut s'accrocher à la parole d'Allah Azza wa Jal? Donc, les savants donnent ce conseil. C'est un conseil qu'on devrait essayer d'appliquer. C'est pas évident. Mais si on est prêt à donner du temps pour le Qur'an, qu'on le fasse bien. Si on est prêt à donner une heure de lecture par jour, on peut orienter ce sacrifice de temps d'une façon encore plus optimale. C'est quand je lis le Qur'an, idéalement j'essaie de lire les passages qui vont être lus dans la salat al-Tarawih du soir et de voir un petit peu le contenu en français de ce qui va être lu. De cette façon, même si je ne suis pas arabophone, mais au moins quand le imam va lire, je sais à peu près de quoi on parle. C'est quand même tragique que le imam lit et qu'on ne sait pas est-ce qu'il parle de la description du Jannah qui doit normalement remplir nos cœurs de joie, ou le imam est en train de lire des versets qui décrivent le Jahannam qui doit susciter en nous de la crainte, de l'angoisse et de la peur. Ce serait dramatique que le imam lit Ya ayyuhalladhina amanu et qu'on ne distingue pas Kutiba alaykum al-qisas de Kutiba alaykum al-siyam. Ce serait vraiment passer à côté du message essentiel du Coran. Et encore une fois, on dit, on n'a pas besoin forcément de connaître l'arabe parfaitement, mais qu'on fait un effort, on essaie de parcourir un petit peu les différents passages, les différents chapitres qui vont être lus le soir dans un Coran en français. Et de cette façon, je vous assure qu'il y aura une certaine concentration dans la salat. Parce que déjà, on aura fait un pas vers Allah. Un pas pour travailler notre khushu', notre dévotion, notre concentration. Et assurément, Allah va nous donner la possibilité de trouver la concentration parce qu'on aura montré à notre Seigneur qu'on est consciencieux et qu'on est motivé, qu'on a envie de trouver cette connexion avec lui par le biais de la salat. Donc ça, ce serait la façon idéale d'accomplir le tarawih. Et là aussi, les savants ils disent que, voyez, une des sagesses de la salat au tarawih pour la personne qui ne pratiquait pas correctement sa religion en dehors du mois béni, la personne va prendre l'habitude de faire sijda. La personne va prendre l'habitude de faire recours, va prendre l'habitude de se mettre debout, qiyam, devant Allah Azza wa Jal. Et on a espoir qu'avec cette habitude, la personne va intégrer l'importance des salats faraz en temps normal. Et que la personne va se dire que, subhanallah, dans le mois de Ramadan, je suis capable de rester debout 20 rak'at. Ben, comment est-ce qu'en dehors du Ramadan, j'arrive pas à venir pour faire 4 rak'at Isha? Peut-être qu'il y a un déclic, peut-être qu'il y a un istiqama qui va s'installer dans son cœur, et ça c'est tawfiq min Allah. Et ça ne peut venir que de notre Seigneur. Mais en général, ce qui va nous permettre de prendre ces bonnes résolutions et de concrétiser les bonnes habitudes du mois de Ramadan, ce seront nos doigts. C'est ça que les savants disent, et là ça nous permet de passer à une autre thématique, le iftar. qui fait partie des actions du Ramadan. Le iftar, ce n'est pas juste la rupture du jeûne. Le iftar, ce qu'on va, on va vivre dans un instant, c'est un moment exceptionnel, extrêmement important, aussi important que le sehri, que le suhur. Le suhur et le iftar, deux actions qu'on va répéter 29 fois ou 30 fois durant ce mois, on doit vraiment les aborder de façon spirituelle et pas uniquement de façon culinaire. Ce n'est pas juste un repas. C'est vraiment des moments d'échange avec notre Seigneur où on obtient, on peut obtenir beaucoup de choses. Après, il y a des gens qui vont passer à côté de ces vertus, et puis il y en a d'autres qui, mashallah, ils connaissent, ils vont s'efforcer de les gagner, de les obtenir. Donc, pour que la réalité du jeûne pénètre notre cœur, la réalité de la taqwa rentre dans notre cœur, l'attachement profond pour la salat de Tarawih et l'attachement profond d'une manière générale pour le Coran, ce qu'on a parlé d'étudier, de comprendre le sens pour la prière du Tarawih, et donc d'une manière générale dans notre relation avec le Coran, les savants disent qu'il est bien, qu'il est conseillé aux croyants au moment de rompre le jeûne, parce que vous savez qu'au moment de rompre le jeûne, il y a au moins un doua qui est accepté. Pour ça, on dit dans les hadiths que parmi les doua qui sont acceptés par Allah, le doua du jeûneur au moment de rompre son jeûne. Donc c'est le moment par excellence de demander à Allah Hidayah, Tawfiq, Istiqama, les trois mots clés que je dois retrouver dans toutes mes invocations du mois béni à chaque rupture du jeûne. Également un autre moment de la journée qu'on va voir dans un instant si on a le temps. À chaque fois où je vais rompre mon jeûne, déjà je demande à Allah l'acceptation. Quand je dis Allah malaka sumt wa bika amantu alayka tawakkaltu ala rizqika aftart fa taqabbal minni. C'est comme le doua Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. C'est qu'à l'issue de la journée de jeûne, au moment de le rompre, on demande à Allah, oh Allah accepte. Donc ça c'est un doua essentiel qu'on demande déjà dans l'invocation. Mais avec ça, les savants disent que parmi les doua qu'on doit demander à chaque rupture du jeûne, oh Allah donne-moi la guider, la hidayah, pour rester sur ce droit chemin. Donnez-moi tawfiq de continuer tout le temps à faire de bonnes œuvres, et istiqama, la fermeté de l'accomplissement tant des bonnes œuvres et des bonnes choses que je fais durant ce mois, mais également dans l'éloignement du haram, de la distance que j'ai pris avec les interdits et que je vois que j'arrive à gérer. Je me rends compte que durant le mois béni, j'arrive à faire l'impasse sur les mauvaises habitudes que j'avais en dehors du mois béni. Oh Allah, accepte-moi pour rester définitivement éloigné de tout ce qui est mauvais. Parce que ces choses mauvaises, c'est exactement ce qui nous empêche de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et ces choses mauvaises, ces haram, c'est exactement ce que Shaytan utilise, les armes de Iblis, alayhi na'natullah, pour nous éloigner d'Allah Azza wa Jal. Et en même temps, lorsque Shaytan nous éloigne d'Allah par ses péchés, il nous donne l'illusion de trouver un plaisir dans ses, dans ses péchés. Il nous donne l'illusion qu'il y a un bonheur dans ses péchés, alors que s'il y a un bonheur, s'il y a un moment de jouissance, ce moment de jouissance est limité, éphémère, et il n'apporte pas de réel bonheur au cœur de l'homme. Même après un péché, à un moment donné, il y a de l'amertume. Il y a ce qu'on appelle un spleen, il y a une lassitude qui finit par s'installer dans le cœur de l'homme. Et si on va un peu plus loin concernant l'état psychologique, on avait parlé de l'état psychologique du jeûneur, le moment où l'homme trouve réellement la tranquillité du cœur, c'est lorsque le cœur arrive à se connecter avec Allah Azza wa Jal. Comme Allah nous dit dans le Coran, Allah, bidhikrillahi tatma'innul qulub, que c'est par la pensée d'Allah que le cœur trouve le tama'nina. Et le tama'nina, la quiétude, la tranquillité, l'apaisement, on pourrait utiliser n'importe quel synonyme en français, ça ne traduirait jamais le terme tama'nina. C'est un état psychologique mais également spirituel. C'est quand, sur le plan spirituel, on trouve un certain épanouissement, quand le cœur, la pensée du cœur est avec Allah, psychologiquement on est apaisé. Et ça, on ne pourra pas le retrouver, cet état d'esprit, ça ne s'obtient pas par des médicaments, ni par du Lixomil, ni par du Stinox, ni par des trucs qui apaisent. Il y a des gens qui ont la tête un peu fatiguée, ils prennent des médicaments pour être délâchés. Ça va peut-être délâcher. Ou alors même ceux qui touchent à des trucs qui sont haram, zamal ou autre chose, ils ont l'impression qu'ils vont connaître un certain relâchement, un bonheur. Mais ça, c'est un éphémère, haram, et bien sûr, est mauvais pour la santé. Mais le réel apaisement du cœur, c'est dans la pensée d'Allah. Et Shaitan va faire tout ce qui est en son pouvoir, parce qu'il a un pouvoir. Allah lui a accordé un pouvoir sur l'homme, un pouvoir de persuasion, waswasa, les insufflations, un pouvoir de dissuasion, il va dissuader l'homme de faire des bonnes œuvres. Également, la possibilité d'induire en erreur l'être humain en le faisant miroiter les bonheurs de ce monde, en le faisant croire que ça, c'est le bonheur, c'est dans les biens de ce monde, c'est dans telle chose que je vais trouver l'épanouissement. Donc, pour revenir à ce qu'on disait, quand on demande au moment de jeûner, « Wallah, donne-moi istiqama », istiqama également, de rester éloigné de ces péchés qui sont en fait les véritables freins, ce qui m'empêche de connaître le bonheur dans ce dunya et d'entrevoir le bonheur dans le akhira. Donc, vous voyez tous ces cadeaux qu'Allah nous accorde dans le jeûne, au moment de rompre le jeûne, je peux demander ce dua qui pourrait changer ma vie. Vous savez, il y a des gens qui ont vu leur vie changer quand ils sont allés au hajj. Il y a d'autres personnes qui, à partir de Ramadan, leur vie a changé. Moi, je connais personnellement des gens qui fréquentaient la masjid avant, mais de façon occasionnelle, Jum'a et Ramadan. Mais à un moment donné, il y a eu un déclic. Il y a eu un retour de iman, une flamme qui s'est installée et que depuis, ces personnes-là viennent, depuis des années, régulièrement à la masjid. C'est hidayah min Allah, qaboul min Allah, tawfiq min Allah. Et tout ça, on doit le demander. Qu'Allah nous donne tawfiq, hidayah et accepte et donne istiqama, donne les bonnes actions, dans les résolutions, dans cette soumission vers Allah, dans cette patience, dans cette persévérance, dans l'accomplissement des bonnes actions, mais également dans l'éloignement du haram, dans la recherche permanente du contentement d'Allah Azza wa Jal. Tout ça, les ulama, ça fait partie des kunuz, des trésors du mois béni. Donc, comme on a abordé le thème du iftar et qu'on va rompre le jeûne dans quelques instants, je pense que si on peut compléter là-dessus, c'est déjà intéressant. On a déjà fait combien d'iftars ? 4 iftars, jeudi, hein, jeudi, vendredi, samedi, et aujourd'hui ça va être, jeudi, vendredi, samedi, ça fait 3. Donc là ça va être le 4e. Vous savez, chaque iftar, c'est un moment clé pour le sa'im. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « Inna li sa'imi inda fitrihi da'watun ma turad » Hadith ibn Majah, le jeûneur a, au moment de rompre le jeûne, au moins un dua qui n'est pas rejeté par Allah Azza wa Jal. Donc les savants disent que si pendant 29 ou 30 jours de Ramadan, je me concentre dans mes invocations au moment de la rupture du jeûne, je sais qu'il y aura au moins 30 du'as qui ont été qaboul, qui ont été acceptés par Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas là un cadeau extraordinaire de la part d'Allah ? 30 vœux, 30 désirs, 30 choses qui me tiennent à cœur, que assurément cela aurait été accepté par Allah Azza wa Jal. Le prophète alayhi salatu wassalam dit également, il y a d'autres hadiths qui vont dans le même sens, que 3 catégories de personnes dont les doigts ne sont pas rejetés, et parmi ceux-là, as-sa'im hatta, le jeûneur jusqu'à ce qu'il va rompre son jeûne, hadith d'imam Tirmidhi. Donc les savants disent que à ce moment, on doit se désengager de tout autre acte d'adoration, même le tilawat al-Qur'an, qui est vraiment l'action phare de ce mois, c'est le mois du Qur'an, mais même le Qur'an, on doit le fermer au moment de rompre le jeûne, pour nous consacrer aux doigts, aux invocations. Parce que ça, on donne cet exemple, c'est vraiment comme si que, au moment de rompre le jeûne, on va obtenir notre récompense auprès d'Allah. Après une journée d'épreuve, de patience, ben Allah nous écoute. Qu'est-ce que le serviteur va lui demander ? Et là, il y aura au moins une demande qui sera exaucée, peut-être plus. Allah Ta'ala a'lam. Donc vraiment, profiter de ce moment où on va demander à Allah Azza wa Jal ce qui nous tient le plus à cœur. Après, il y a des gens qui font un blocage dans les doigts. Ils disent qu'on ne sait pas quoi demander. Ah, ça, c'est vraiment une remarque étrange. Mais qui traduisent une pauvreté dans la relation directe avec Allah. Et ça, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on appelle une pauvreté dans la relation directe avec Allah ? C'est que le croyant n'a pas l'habitude de demander à Allah. Très certainement, il a l'habitude de demander aux gens. Ce qui veut dire que sa confiance est sur les gens. Il est malade, il va voir un docteur. Il a mal aux dents, il va voir un dentiste. Il a réduit la ligue, ce qui n'est pas haram. Mais ça veut dire que la connexion se fait entre makhlouq et makhlouq, sans transiter par le khaliq. Et ça, c'est un manque. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle que ad-du'a huwa al-ibada. Le du'a, c'est le ibada par excellence. Pourquoi est-ce que le du'a, les invocations, c'est vraiment... Ça, dans le du'a, on voit vraiment les qualités du abid, les qualités du serviteur de l'adorateur d'Allah, parce que dans le du'a, il y aura at-tadhallul wal khudu', il y aura la soumission à Allah. Quand je demande du'a, je me mets dans une position inférieure, je me mets dans la position de l'esclave d'Allah, du abdullah, et je reconnais la position de mon Seigneur qui est mon khaliq, mon malik, mon raziq, Mudabbir kulla shay, celui qui organise toutes choses. Et je fais ce qu'on appelle al-iftiqaru ilallah. Al-iftiqaru ilallah, c'est de montrer à Allah qu'on est pauvre. C'est de montrer à Allah qu'on n'a rien et qu'on a grandement besoin de lui. Ça, ça doit être une qualité propre aux croyants. Et dans le doua qui est fait correctement, avec dévotion, concentration et présence de cœur, je montre à mon Seigneur que, oh Allah, je suis rien, je suis ta créature. Je suis ton esclave et j'ai besoin de toi. Et toi, oh Allah, tu es au-dessus de moi. Tu es, subhanallah, mon Seigneur avec ses sifat, ses qualités. Et tout ce que j'ai besoin, ça dépend de toi, ya Allah. Et ça, ça rejoint le verset Waïda Sa'alaka. Et avec ça, développer cette conviction que le doigt que je suis en train de formuler, Allah m'entend. Alors que je ne l'ai pas dit fort, quand les gens demandent doigt, est-ce que vous les entendez crier les doigts? Les gens, ils demandent doigt, ils chuchotent. Ils murmurent les doigts. Il y a peut-être même des gens qui peuvent demander doigt de leur cœur, ce qui n'est pas interdit. Mais quand je demande doigt avec conviction qu'Allah est capable d'exaucer, ça prouve déjà que j'ai conviction qu'Allah est sami' basir, wa ya'lamu ma fi sudur, qu'Allah m'entend, qu'Allah me voit et qu'Allah sait ce qu'il y a dans mon cœur et qu'Allah sait, qu'Allah connaît mes peines, qu'Allah connaît mes souffrances, Allah connaît mes ibtila, mes épreuves, parce que qui sait qui envoie les épreuves si ce n'est que notre Rabb, et qu'Allah sait et que on a la conviction que al-faraj, l'ouverture, al-fatih, elle ne peut venir que d'Allah Azza wa Jalla. Vous voyez que c'est pour ça que le doua, ça englobe beaucoup de qualités spirituelles, mais bien sûr à condition de l'orienter correctement, à condition de le faire correctement en ressentant vraiment qu'Allah m'entend, me voit et qu'il est capable d'exaucer mes demandes. Et ça, ça rejoint le verset qu'on a commenté, qu'on a commencé à lire tout à l'heure, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي. Allah promet que فَإِنِّي قَرِيبٌ. Il suffit que le mu'min se dirige, s'oriente vers Allah par les invocations, qu'il sache que فَإِنِّي قَرِيبٌ, qu'Allah est proche. Donc Allah est capable d'exaucer, et Allah sait exactement ce que cette personne demande. Également, quand on va formuler les doigts, on a conviction sur ce verset. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Allah dit, invoquez-moi et je vous exauce, j'accepte vos invocations. Donc toutes ces qualités spirituelles-là, je vais les retrouver dans le doigt. Donc au moment de rompre le jeûne, les savants disent, on fait les doigts qui nous sont chers, mais on les fait de façon intelligente, avec ses convictions, que même si je ne crie pas les doigts, Allah m'entend, même si je murmure, Allah sait les murmures ou sait ce qu'il y a dans mon cœur. Et c'est, là, ça nous donne, c'est un début de relation directe avec Allah. Et cette relation directe avec Allah, on a grandement besoin de le développer. Et ça aussi, c'est des ingrédients de la taqwa. C'est les ingrédients de la piété, qu'on sait que quand on s'adresse à Allah, Allah nous entend, nous écoute. Et donc, on a une prise de conscience que entre le mu'min et son Seigneur, ben, il y a une proximité. Et là, on réalise le verset « وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ » que nous sommes plus proches de l'homme que sa veine jugulaire. C'est Allah, il connaît exactement ce qu'on a à l'intérieur. Donc, quand je demande doigt, c'est que je sais qu'Allah m'entend. De cette façon, d'une certaine façon, j'arrive à intégrer, si je suis intelligent, je vais intégrer le fait, ben, Allah, il sait ce qu'il y a dans mon cœur, mes mauvaises intentions, quand je vais faire quelque chose de mal. Et quand je concrétise cette mauvaise intention, Allah me voit, Allah m'entend. Je ne peux pas me permettre de continuer à désobéir à Allah Azza wa Jalla. Donc, voilà quelques hikmah, quelques sagesses que les savants ils donnent et quelques conseils qu'ils donnent au moment de rompre le jeûne. Les savants disent, ne négligez aucune demande et ne considérez aucune demande comme étant insignifiante. Bien sûr, on va alterner entre ce qui nous est profitable de le dunya et le akhira. Parce qu'il y a des gens, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. Et malheureusement, وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَافِ. Ils ne demandent rien en rapport avec le delà. Tandis qu'il y a d'autres personnes, ce sont là les exemples à suivre. وَمِنْهُ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَا وَ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Ça, c'est le mu'min intelligent. Ça, c'est la personne qui demande des doigts d'une façon intelligente. Le doigt doit être composé de ces trois choses. Si on calcule le temps que je consacre à mes doigts, il faut qu'il y ait ces trois choses-là. S'il y a une entité qui manque, c'est un doigt qui n'est pas complet. C'est que je n'ai pas une vision globale sur le doigt. Je dois demander ce qui est important pour mon dunya. Et qu'est-ce qui est important pour mon dunya? As-siha, la santé. Quand il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce qu'il faut demander? Demandez, ben, ou vous êtes malade, ou vous êtes en bonne santé. Il dit, ben, je veux rester en bonne santé. Il dit, ben, à qui il faut demander? Vous savez, un docteur dit, docteur, mieux vaut être en bonne santé. Vous voulez dire que venez me voir que vous êtes malade. Ne venez pas me dire que j'aimerais rester en bonne santé, c'est pas mon travail, ça. À qui on demande la shifa? As-siha, la protection, c'est à notre Rabb. Donc on comprend en fonction de nos demandes, de nos aspirations, on doit les orienter vers Allah. Donc demander ce qui est important pour notre dunya. Il y a des jeunes qui passent le bac là. Si ce sont nos enfants, nos frères, nos sœurs, demandez à Allah al-Najah, qu'ils réussissent. Ce n'est pas leur intelligence qui va les faire réussir, c'est tawfiq min Allah. Demandez la réussite, quelqu'un cherche un travail, il demande à Allah, quelqu'un en âge de se marier, il demande à Allah que durant ce mois, Ya Rabb, ouvre mon taqdir, accorde-moi l'épouse vertueuse, ou que quelqu'un a des problèmes dans son couple, Ya Allah, que durant ce mois, que la quiétude, l'apaisement couvre nos cœurs et qu'on on réalise le but de notre création, c'est on recherche ta proximité, Ya Allah, et par le lien de ce mariage, on s'unit pour être proche de toi et non pas pour se chamailler, pour chercher des problèmes, pour se quereller du matin au soir, qu'on refixe nos objectifs. Donc, il y a tellement de demandes qu'on peut faire concernant le dunya, ça pourrait prendre beaucoup de temps. On alterne entre Rabbana atina fi dunya hasana et wa fil akhirati hasana. C'est quoi wa fil akhirati hasana? Ça commence par husnul khatima. Ça, c'est important, ça. Un croyant ne peut pas se permettre de lever les mains et ensuite de les rebaisser avec subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, nous compléter le doua sans avoir demandé à Allah husn al-khatima. Ça, c'est une priorité, ça. Demander à Allah une mort correcte, une mort fit ta'a, de mourir avec la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, que la dernière parole qui sort de notre bouche, c'est ash-shahada. Ça, c'est une priorité de mourir, par exemple, dans un endroit saint, comme une masjid, ou dans un mois béni, comme le Ramadan, ou devant la Kaaba, même si on dit que ça c'est un rêve, mais on le demande, et surtout de mourir dans une bonne phase, dans l'accomplissement de bonnes œuvres, et surtout, et le constat de Husn al-Khatima, c'est sous ou le Khatima, c'est de mourir par exemple de le péché. Il n'y a rien de pire qu'une personne qui prend sa voiture pour aller vers un endroit haram, qui fait un accident, qui meurt. Ça s'appelle sous ou le Khatima. Ou qu'une personne meurt il meurt un lundi où il n'a pas fait Fajr le matin. Sous le Khatima. Ou il ne s'est pas acquitté de son devoir envers Allah Azza wa Jal. Donc, ça commence par Husnul Khatima. Demander à Allah la mort dans les bonnes œuvres, dans le droit chemin. Également, mourir avec Iman, que l'ange de la mort reprend notre âme, nous annonce les bonnes nouvelles, qu'Allah est satisfait de nous. Également, qu'on arrive à répondre aux questions des anges de la tombe. Est-ce qu'on se fait du souci pour ça? Combien de personnes on a enterrées? Combien de proches? Combien de personnes éloignées auxquelles on a assisté au bain mortuaire et qu'on a accompagné dans le qabr, mais dans le maqbara, dans le cimetière. Et parfois même dans le qabr, on est descendu pour faire descendre le mayet. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne se dit pas que moi aussi, je vais passer par cette étape? Et lorsque le prophète, une fois, était avec le sahaba, enterré un frère, il a dit que « Udu'u li akhikum bithabat fa'innahu l'an an yus'al » Quelques instants après, quand les gens ils se sont dispersés, le prophète est resté là. Et quelques proches sont restés autour de lui. Demandez doua maintenant. Maintenant, commencez à demander doua pour votre frère. Parce que les anges sont en train de lui poser les questions fatidiques, les questions essentielles pour sa réussite de ce monde de la tombe ou non. C'est-à-dire que chaque homme passe par ces étapes. Ça doit faire partie de nos doua, ça, wallah, que quand les anges me posent des questions, que j'arrive à répondre. Parce que ce qu'on répond, c'est pas ce qu'on a mémorisé. C'est pas ce que je vais écrire, je vais dire aux gens, écrivez les bonnes réponses sur ma main quand vous m'enterrez, je vais répondre, je vais lire. Non, c'est ce qu'il y a de le cœur. Là, le ikhlas, on voit le ikhlas de le cœur. Là, on voit le contenu intérieur, la relation avec Allah. Le mu'min va répondre avec grande facilité. Demandez à Allah que la tombe soit un jardin du paradis et non pas un trou de l'enfer. Demandez à Allah, wallah, que quand je serai ressuscité, que je sois ressuscité ma an-nabiyyin, ma siddiqin, ma shuhada, wa salihin. Est-ce qu'on n'a pas droit à ça? Oui, on a droit à ça. On peut accéder. Il y a des croyants qui vont être ressuscités avec les prophètes, avec les sahaba, avec Abu Bakr al-Siddiq, Omar, Uthman, Ali. N'est-ce pas là notre rêve? N'est-ce pas là une chose que nous pouvons demander? Oui, nous pouvons, nous devons le demander. Ça fait partie de wa fil akhirati hasana. Oh Allah, que quand les livrets de compte seront remis, que je le reçois de la main droite, fier. Et que je peux montrer aux gens que j'ai réussi. Quand tu m'appelles devant ton tribunal, Ya Allah, que mes péchés soient déjà pardonnés, que je n'ai de compte à rendre à propos de qu'un péché, Ya Allah, que quand mes actions seront pesées dans la balance, Ya Rab, que mes bonnes actions soient lourdes et que je ne retrouve pas de péché, Ya Allah, que quand on m'invite à passer sur le sirat, que je fais partie des gens qui passent à la vitesse de l'éclair. Et avant ça, de doua, de t'étape qu'on a oublié, que quand je serai ressuscité, Ya Allah, que tu m'appelles pour être sous l'ombre de ton trône, parmi les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre de ton trône. Vous voyez le nombre de choses qu'on peut énumérer dans les doigts. Mais tout ça, il faut demander. Et c'est quand on a un moment d'acceptation, c'est vraiment l'occasion par excellence pour demander ces choses qui sont en rapport avec « wa fil akhirati hasana » et bien sûr demander le « jannah ». Al-Firdaus, Al-A'la, il dit Al-Mu'azzam, dit « Iza sa'altumullah al-Jannah, fas'alouhu al-Firdaus » Si vous demandez à Allah le paradis, demandez directement le Firdaus. Ça c'est tout, ça c'est l'espoir que le croyant doit avoir en Allah Azza wa Jalla. Donc demandez en rapport avec le dunya, avec le akhira, et demandez « Wa qina azab al-Nar » Wallah, protection contre les châtiments de la tombe. Et Allah, protection contre les châtiments de l'enfer. Protège-moi, protège ma femme, protège mes enfants. Ça, ça veut... est-ce qu'une personne peut concevoir qu'il va au paradis, que sa femme va en enfer? C'est terrible ça. Mais c'est le moment de demander à Allah protection contre le Jahannam. Et c'est un devoir du croyant. Ya alladhina amanu, qu'o anfusakum, wa ahlikum, contre quoi? Nara. Protégez-vous, protégez vos proches, contre le nar, contre l'enfer. Et c'est maintenant qu'on demande à Allah protéger. Allah majalna minan nar, Allah majalna minan nar. Tout ça, il faut le faire au moment de rompre le jeûne. Au minimum 10 minutes. Minimum 10 minutes d'invocation. C'est-à-dire, on s'arrête dès maintenant pour pouvoir le mettre en pratique au moment de rompre le jeûne avec espoir qu'Allah Azza wa Jal va accepter. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accepte cette journée de jeûne et qu'Allah nous donne les qualités du jeûneur et que ces sifat de iman, de mabda, de début de taqwa qu'on a vu, qui sont présents déjà en nous, consciemment et consciemment, qu'ils restent dans nos cœurs et qu'Allah nous donne l'istiqama dans les bonnes œuvres et dans l'éloignement des harams et qu'Allah nous donne la possibilité de faire dua avec sincérité, en pensant qu'Allah va accepter avec conviction et qu'Allah accepte nos invocations. Il donne la possibilité de compléter ce Ramadan de la meilleure des façons, que jour après jour, notre iman augmente et nos quotas de bonnes actions augmentent. Ma tawfiqi illa billah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursaleen. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair.